Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors en mai 1967 paraissait en librairie L'écriture et la différence, le premier de Jacques Derrida et la marche d'André Pierret de Mandiargues. Le premier allait marquer la philosophie pour plusieurs décennies, le second emportait le prix Goncourt. Quelle époque ?
Ah oui, il y a des décennies comme ça. Les 60s ont probablement constitué l'un des points culminants de la créativité en Occident. Le contexte international avait pourtant tout pour rendre les contemporains anxieux. Les années 60 s'ouvrent en effet sur la crise des missiles de Cuba. On n'est jamais passé aussi près de la guerre nucléaire entre les deux superpuissances de l'époque. Et elle se termine avec l'écrasement du printemps de Prague par les chars russes et l'enlisement américain au Vietnam. Pourtant, les 60s restent à juste titre dans la mémoire collective de ceux qui ont eu la chance de les vivre comme une époque bénie. L'optimisme ambiant autorisait l'audace. Alors les éditeurs s'apprêtent à célébrer l'an prochain le 50e anniversaire de mai 68, mais le mois prochain, un autre 50e anniversaire donnera lieu, lui aussi, à des célébrations. C'est le 1er juin 1967, en effet, que les Beatles mettaient en vente l'album le plus ambitieux de leur carrière, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et avec le recul, on peut dire que ce fut l'un des événements culturels majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors le magazine intello britannique Prospect organise chaque mois un échange d'arguments entre deux personnalités sur le sujet brûlant du moment. Et ben dans le tout dernier numéro, celui de ce mois-ci, la question posée est « Sgt. Pepper mérite-t-il tout ce battage ?» Réponse positive pour John Harris, journaliste au Guardian, négative pour Victoria Segal, critique musicale et littéraire du Sunday Times. Gauche versus droite, ce serait simplifié à outrance, même si la seconde se montre critique de la génération du baby-boom et de son leg. Et voici un résumé des deux positions antagonistes. D'abord, première divergence quant au sens historique de l'album des Beatles. John Harris. Si l'album représente un moment essentiel dans l'histoire moderne de l'Occident, c'est parce qu'il enregistre la césure entre deux époques, je le cite. « À ses meilleurs moments, vous pouvez y entendre à la fois la fin de l'Angleterre en chapeau melon, impérial et moisi, celle des fanfares en uniforme, et la naissance de la modernité dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, émancipée, auto-expressive, chaotique. » C'est un mélange étonnant d'avant-gardisme et de nostalgie de la culture populaire anglaise. N'oublions pas que Penny Lane et Strawberry Fields Forever, ces chansons de la ressouvenance, ont été enregistrées lors des mêmes sessions et devaient figurer à l'origine sur l'album. Si A Day in the Life est le chef-d'œuvre qu'on a dit, c'est précisément parce que ce morceau réussit la greffe de l'expérimental sur l'attendrissement envers le passé victorien. Victoria Segal, ce fut moins la rampe de lancement vers une nouvelle ère que le condensé d'une humeur d'optimisme de courte durée, puisqu'elle devait cesser rapidement à la fin de la décennie. Quant au contenu, pour Victoria Segal, Sgt. Pepper est un objet fabriqué de manière capricieuse avec beaucoup trop de moyens. La créativité de John Lennon ne pouvait se déployer librement dans l'atmosphère d'un énorme studio où George Martin les faisait travailler toutes les nuits comme de véritables salariés. Du coup, l'album signe le début de l'emphase musicale qui ne sied pas à l'esprit du rock. Il inaugure une grandiloquence qu'on retrouvera ensuite avec The Dark Side of the Moon de Pink Floyd ou plus récemment avec OK Computer de Radiohead. Or, à la même époque, naissait une nouvelle scène, dit-elle, autrement plus authentique et audacieuse parce que maigre et tranchante, avec le psychédélisme en Grande-Bretagne ou le Velvet Underground à New York. Réponse de John Harris, oui, les Beatles ont bénéficié de semaines entières de studios, de techniciens les plus pointus de l'époque, mais c'est précisément la raison pour laquelle ils ont pu faire franchir à la pop music le passage à l'âge adulte. Ils ont libéré la pop de ses limites. Victoria Segal, elle écrit si bien qu'elle mérite d'être traduite telle qu'elle. Sgt. Pepper dit quelque chose comme « un temps splendide et garanti pour tous ». Mais c'est une promesse qui peut sonner comme une menace, une exigence que tout se conforme à cette gaieté cosmique imposée et à cet optimisme collectif sur commande.
Et cet anniversaire va donner lieu, on l'imagine, à une réédition enrichie de l'album, Brice ?
Oui, Florian, on nous promet une édition de luxe pleine de prises alternatives avec notamment des versions inédites de Strawberry Fields et de Penny Lane, opportunément rajoutées à un album où ces chansons manquaient. Mais je signale à nos auditeurs que l'ensemble des stations de Radio France leur a concocté un événement très particulier pour célébrer cet anniversaire et que, bien sûr, France Culture sera associée aux cérémonies. Sous quelle forme, c'est encore une surprise, bien dans l'esprit de l'album.
J'adore, Brice, quand vous parlez du monde des idées par le prisme de l'histoire de la musique.
J'y reviendrai. Si
Sgt Pepper, vous l'aviez acheté au moment de ça, vous l'aviez acheté en vinyle.
Oui, absolument, ah. Absolument. Bon, ouais, je suis de cette génération. Nous l'avons. Rien vous cacher.
Merci beaucoup, Brice Coutierrier. On se retrouve évidemment demain dans un très court instant sur France Culture. On retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.